Voici une question qui va vous intéresser. Est-ce que Dieu accueille ceux qui reviennent à lui après avoir péché? La Bible est très claire à ce sujet et nous en aurons la réponse aujourd'hui même à l'émission « À travers la Bible ». Bonjour, ici Caro. La Bible, la parole de Dieu, va nous donner des réponses claires, toutes simples, à des questions qui ont sûrement effleuré votre pensée à un moment ou à un autre. Alors voici ces questions. Si je reviens à Dieu sincèrement, après avoir péché, est-ce qu'il va m'accueillir? Est-ce qu'il va même m'accueillir à bras ouverts? De quelle manière est-ce que les gens peuvent reconnaître qu'une personne est un enfant de Dieu? Est-ce que les querelles entre enfants de Dieu peuvent éloigner les gens plutôt que les attirer à Dieu? Est-ce qu'une personne tombe généralement dans le péché soudainement ou si ça se fait plutôt graduellement? Est-ce que les promesses de Dieu sont spécifiques? À quel endroit dans la Bible est-ce qu'on fait le premier récit d'une guerre? Demeurons à l'écoute afin de ne rien manquer à l'enseignement que Dieu va nous donner par sa parole. Le pasteur Régent Joly est prêt. Il a la Bible en main pour nous transmettre toutes ces belles vérités. Demandons à Dieu de disposer nos cœurs. Prions. Seigneur, nos cœurs sont ouverts, nos oreilles sont ouvertes. On s'attend à toi, on s'attend à ce que tu nous enseignes aujourd'hui. On sait que ça te fait plaisir de le faire. Tu veux te faire connaître à nous. Alors parle-nous, Seigneur. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. Maintenant, si vous avez votre Bible, je vous invite à l'ouvrir au 12e chapitre du livre de la Genèse. Nous en sommes au 13e verset. Avec la vie d'Abraham. Nous allons parler de lui dans toutes les sections de la Bible. Le nom d'Abraham revient plus souvent dans la Bible que n'importe quel autre nom. Après s'être attardé à Charan, Abraham est finalement arrivé au pays de Canaan et Dieu lui est apparu à son arrivée. Cependant, il n'y est pas demeuré, même après avoir visité le pays et constaté que c'était un bon pays. À cette époque, le pays était beaucoup plus fertile qu'aujourd'hui. Si nous le visitons aujourd'hui, nous pouvons difficilement concevoir que ce fût un pays où coulait le lait et le miel. Nous verrons ce qui est arrivé à ce pays dans le livre de Deutéronome. C'est un beau pays fertile. Mais il y eut une famine, et Abraham est descendu en Égypte. Là, Abraham s'est rendu compte qu'il pourrait avoir des problèmes à cause de la beauté de son épouse, Saraï. Nous allons lire ce verset. Genèse 12, versets 12 et 13. « Quand les Égyptiens te verront, ils diront, « C'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Maintenant, vous avez sûrement entendu parler des rouleaux ou des manuscrits de la Mer Morte, des parchemins qui contiennent des portions de l'Ancien Testament. Ils furent découverts dans des grottes. Les experts ne pouvaient dérouler un des documents, vu son extrême fragilité. Ils craignaient qu'il ne s'effrite s'ils le détachaient et le sortaient de son étui de cuir. Ils pouvaient voir un nom, Lamech. Ils ont conclu que c'était le livre de Lamech, un livre apocryphe. Un livre apocryphe est un écrit religieux, mais qui n'a jamais été reconnu comme étant inspiré ni ajouté à la Bible. Israël a acheté le parchemin. Il fut hydraté lentement pour finalement le dérouler. Ce parchemin contenait les chapitres 12 à 15 du livre de la Genèse. Ce n'était pas le texte que nous avons présentement, mais une interprétation du récit biblique. Le texte parle de la beauté de Saraï. Ses traits physiques sont décrits. Elle est présentée comme une superbe femme. Mes chers amis, ce texte confirme notre texte biblique. Certainement que Pharaon a voulu Saraï dans son harem. Ce rouleau donne un récit à la première personne du singulier de la tournée qu'a fait Abraham du pays de Canaan. Ce texte ne fait pas partie de la Bible, mais il confirme que le pays était aussi beau que le dit Dieu dans la Bible. Les témoins de l'époque pouvaient le confirmer. Nous ne savons pas si Abraham a vraiment écrit ce texte. La Bible ne nous le dit pas, mais elle dit que le pays était bon et qu'Abraham l'a visité. C'est ainsi que Dieu nous présente la chose, et cela devrait nous suffire. Maintenant, rappelez-vous la rencontre qu'il a faite dans le pays d'Égypte. Pharaon a pris Saraï pour lui-même, et comme l'histoire nous l'indique, les femmes devaient passer par une période de préparation avant de devenir l'épouse d'un roi. Nous voyons un exemple de cela dans le livre d'Esther. Pendant cette période, Dieu est apparu à Pharaon et lui a interdit de toucher à Saraï, car elle était l'épouse d'un autre homme, l'épouse d'Abraham. Poursuivons notre lecture. Genèse 12, les versets 14 à 20. Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi, et la vantèrent à Pharaon, et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison, au sujet de Saraï, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme. Prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Dieu a modifié les projets d'Abraham, mais ne lui est pas apparu lorsqu'il fut en Égypte. Maintenant, au chapitre 13, nous voyons le retour d'Abraham au pays de Canaan. Abraham et Lot quittent l'Égypte pour revenir à la terre promise. Lot se sépare d'Abraham et s'installe dans la région de Sodome, et Dieu apparaît à Abraham pour la troisième fois. Tant qu'Abraham fut en Égypte, et tant qu'il a amené Lot avec lui, Dieu ne lui est pas apparu. Aussitôt qu'il revient dans le pays de Canaan et qu'il se sépare de Lot, Dieu lui apparaît de nouveau. Poursuivons notre lecture. Genèse, chapitre 13, les versets 1 à 3. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme, et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Haï. Abraham était le Bill Gates de son époque. Il était l'homme le plus riche de son époque. Abraham s'est installé loin au nord de Jérusalem. Auparavant, il s'était installé dans les environs de Hébron, au sud de Jérusalem. Maintenant, il s'installe près de Béthel. Verset 4. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Même s'il est tombé dans le péché, Abraham revient à Dieu. Abraham, le fils prodigue, peut toujours revenir à l'autel de Dieu. Ceci est aussi vrai pour nous tous. Dieu accueille les pécheurs qui reviennent à lui. Les bras de Dieu sont grands ouverts pour nous accueillir. Verset 5. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Lot aussi a bien réussi en Égypte. Il a aussi accumulé des richesses. Versets 6 et 7. Et la contrée est insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut des querelles entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananiens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Si vous laissez la parole de Dieu vous parler, vous allez découvrir qu'elle est merveilleuse. Remarquez bien ceci. Abraham ramène deux choses d'Égypte qui seront une source de problèmes et de souffrances pour lui. La première, ce sont ses richesses. L'autre, c'est Agar, une jeune servante égyptienne. Nous reparlerons d'elle plus tard. Maintenant, Abraham est très riche, et cela l'amène à se séparer de Lot. Il y a une querelle entre les deux hommes. Notez ce détail. Les Cananiens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Les bergers d'Abraham et de Lot se querellent entre eux. Il y a aussi un désaccord entre Abraham et Lot. Cela a dû faire jaser ces peuples. Je puis m'imaginer les Cananiens dire aux Phéréziens, « Regarde-les, ils se querellent encore une fois. » Lorsqu'Abraham est venu par ici la première fois et qu'il a construit un autel pour invoquer Dieu, nous l'admirions. Lorsqu'il est venu au début, nous pensions beaucoup de bien de lui. Nous avons remarqué qu'il était honnête, qu'il était reconnaissant. Maintenant, voyez-le aller. Regardez-le se quereller. Le témoignage d'Abraham et de Lot a dû être énormément affecté par ces querelles. Les Cananiens et les Phéréziens ne devaient plus être aussi bien impressionnés. Laissez-moi vous dire une chose, même si certains d'entre vous n'aimeront pas l'entendre. Je ne sais pas quelle ville vous habitez, et je ne l'ai probablement jamais visitée. Cependant, si elle est comme de nombreuses villes et celles dont je viens, les différentes dénominations religieuses ne s'entendent pas toujours. Lorsqu'il y a des querelles internes dans les églises, la population en général est au courant. Savez-vous ce que les gens disent? Si c'est cela, le christianisme, ça ne m'intéresse pas. Je puis très bien me quereller sans cette question de christianisme. Je n'ai pas besoin de chrétien pour m'apprendre à faire cela. Le Seigneur Jésus n'a pas dit aux siens aux églises d'aujourd'hui, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous êtes fondamentaliste et que vous organisez une église. » Oh non, il a dit, « À ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » L'Évangile selon Jean, chapitre 13, verset 35. Mes amis, les Phéréziens et les Cananiens savent si nous nous querellons entre nous ou non. Beaucoup de chrétiens ont un conjoint ou une conjointe ou un autre parent, oncle, tante, neveu, qui ne sont jamais venus à Jésus-Christ parce que leur querelle fraternelle détruisait leur témoignage. Critiquez-vous vos frères et vos sœurs dans le Seigneur devant les inconvertis? Critiquez-vous votre pasteur devant les gens de l'extérieur? Ce que vous voyez à l'église devient-il le sujet de vos commérages? Si c'est votre attitude, plutôt que de vous humilier et pardonner, plutôt que de régler vos différends avec vos frères et sœurs, alors ne vous demandez pas pourquoi votre parenté ne veut rien savoir du Seigneur ni de votre assemblée. Se peut-il que quelqu'un ne soit pas attiré à Christ parce qu'il ne voit pas le fruit de l'Esprit dans votre vie? Les Cananiens et les Phéréziens habitent alors dans le pays. Ils sont toujours là, juste à votre porte, et ils vous observent. Versets 8 et 9 de Genèse 13. Abraham dit à Lot, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. » C'est Abraham qui décide de se séparer de Lot. Notez sa grandeur d'âme. Il laisse à Lot le premier choix du territoire. Lui, Abraham, prendra ce qui reste. Verset 10. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorre, c'était, jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Dans ce temps-là, c'était une région très fertile. Poursuivons, versets 11 et 12. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Ceci est intéressant. Probablement que Lot avait un œil sur ce territoire pendant qu'il était avec Abraham. Le soir, il devait regarder l'horizon, apprécier la plaine du Jourdain et dire à Madame Lot, son épouse, « N'est-ce pas un beau coin de pays par là ?» Le matin, en se levant, il devait se dire « Quel merveilleux territoire qu'il y a dans cette direction !» Le paysage est si beau, l'herbe est toujours plus verte de l'autre côté de la clôture. Lorsque Lot a eu l'occasion de choisir un territoire, nous savons quel fut son choix. Personne ne tombe soudainement dans le péché. Cela se fait graduellement. Tu vois le territoire et tu dresses tes tentes à proximité de Sodome, et c'est le début de la chute. Lot a levé les yeux, il vit toute la plaine du Jourdain, et il prit cette direction. Il ne s'en rendait pas encore compte, mais il a fait la plus grande erreur de sa vie. Lot ignorait un détail qui avait son importance. Verset 13. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Plus tard, nous verrons ce qui advint de Monsieur et Madame Lot, ainsi que de la famille installée à Sodome. Verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux, et, du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. » L'Éternel dit Abraham, après que Lot se fut séparé de lui. C'est la troisième apparition de Dieu, Abraham. « Lève les yeux, et, du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. » C'est le territoire que Dieu va donner à Abraham. Au fur et à mesure que Dieu apparaissait à Abraham, ainsi qu'aux autres patriarches, Dieu indiquait clairement les limites du territoire qu'il recevrait. Dieu révélait la frontière de la terre promise, et il fut très spécifique. Les promesses de Dieu sont spécifiques. C'est aussi vrai en ce qui concerne l'éternité. Le ciel n'est pas un endroit nébuleux. Il est aussi vrai que le fut la terre promise. C'est un endroit bien défini, et la parole de Dieu est spécifique à son sujet. Dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, Dieu est très spécifique, il précise des frontières. Dieu traite non des théories, mais des choses vraies et réelles. Versets 15 et 16. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Voyez ce que Dieu fait pour Abraham. Il identifie un territoire et dit à Abraham qu'il est à lui. Il confirme aussi à Abraham qu'il aura une très grande postérité, ce qui fut le cas. Verset 17. Lève-toi. « Parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » Le fait qu'un des rouleaux de la mer morte décrit cet incident est très intéressant. Ce récit est même à la première personne du singulier. À l'époque, ce pays était un joli coin de paradis. Verset 18. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près d'Hébron. Il bâtit là un autel à l'Éternel. Abraham construisit beaucoup d'autels. Quelqu'un pouvait suivre les traces d'Abraham par les autels qu'il laissait derrière lui. L'homme a laissé des traces sur la lune. Il y a placé un petit drapeau qui dit « Nous sommes venus en paix ». Cependant, il n'y a pas laissé de Bible ou une citation de celle-ci. Remarquez que cela n'aurait pas été très utile. Pas plus que le petit drapeau. Mais cela reflète la manière contemporaine de penser. Pour Abraham, bâtir un autel à l'Éternel revêtait une grande importance, et c'est exactement ce qu'il faisait. Mamré a plusieurs significations, dont richesse, et Hébron signifie communion. C'était un endroit merveilleux où habiter. Aujourd'hui, on pense avoir trouvé les chaînes de Mamré où Abraham a dressé ses tentes, ainsi que le puits qui s'y trouvait. C'est un joli endroit entre Hébron et Mamré, et Abraham y a vécu. C'est un endroit plein de richesses, et mieux encore, un endroit de communion avec Dieu. Cela semble avoir été le lieu de résidence d'Abraham. C'est là qu'il fut enseveli. Maintenant, nous sommes au chapitre 4 du livre de la Genèse. Nous y voyons la première guerre enregistrée dans la parole de Dieu. C'est la guerre au cours de laquelle Abraham délivra Lot de la main des rois qui l'avaient capturé. Nous y rencontrons aussi un prêtre. Pour la première fois, nous rencontrons Melchisédek, qui bénit Abraham. Nous avons deux grandes vérités dans ce chapitre, et dans un sens, c'est un chapitre très remarquable. Il ne semble pas entrer dans le cadre de l'histoire. Il semble qu'on pourrait omettre ce chapitre et que le récit de la vie d'Abraham se lirait très bien. Pourtant, c'est un chapitre très important du livre de la Genèse. Commençons sa lecture. Genèse, chapitre 14, versets 1 et 2. Dans le temps d'Amraphel, roi de Shinéar, d'Arjok, roi des Lazars, de Kedorléaomer, roi des Lames, et de Tidéal, roi de Cogim, il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, et Bircha, roi de Gomorre, à Shinéab, roi d'Abna, à Shiméhéber, roi de Tseboïm, et roi de Béla, qui est Tsoar. C'est la première fois que la Bible rapporte le récit d'une guerre. L'humanité a commencé très tôt à faire la guerre. Même si c'est la première guerre inscrite dans la parole de Dieu, je doute fort qu'elle fût la première guerre à avoir eu lieu. Je ne pense pas que l'auteur ait voulu donner cette impression. La raison que la Bible en parle, c'est que Lot, le neveu d'Abraham, fut impliqué dans la bataille. Versets 3 et 4. Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Siddim, qui est la mer Salée. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kedorlaomer, et la 13e année, ils s'étaient révoltés. Voilà ce qui a attiré les rois de l'Est. Ils sont venus mater Sodome et Gomorre. Ceci est un fait historique, et je n'ai pas l'intention de lire tous les versets concernant cette guerre. Vous avez remarqué, nous avons lu la première partie de la Genèse, verset par verset. J'aimerais que nous puissions faire cela avec toute la Bible, mais parfois nous devrons sauter des sections. Et c'est ce que nous allons faire présentement. Reprenons notre lecture à partir du 12e verset de Genèse, chapitre 14. Ils enlevèrent aussi, avec ses biens, Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome, et ils s'en allèrent. Les rois de l'Est arrivèrent, et ils vainquirent les rois qui s'étaient unis contre eux près de la mer morte. Ils reprennent la route en emmenant les rois prisonniers. Eh oui, chers amis, depuis que ce monde est en rébellion envers Dieu, il est aussi en guerre envers lui-même. Mais un jour, tous ces conflits cesseront. Lorsque Dieu se manifestera à nouveau par la seconde venue de son Fils Jésus. Chers amis, acceptez la manifestation de l'amour de Dieu en la personne de Jésus-Christ, et par le fait même, en vous réconciliant avec Dieu, vous ferez la paix avec vos semblables. Préparons-nous à la prochaine émission en lisant Genèse, chapitre 14, verset 12, jusqu'à Genèse, chapitre 15, verset 6.
Merci, Régent. Ce qui me touche le plus profondément dans la leçon d'aujourd'hui, c'est la manière dont Dieu nous accueille après qu'on a péché, mais qu'on revient à Lui. Vous savez, même si on est chrétien, il nous arrive encore de pécher parfois. Heureusement qu'on ne perd pas notre salut. Mais on peut perdre notre communion avec Dieu jusqu'au moment où on se repent sincèrement. La Bible dit que si on confesse nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ça, c'est écrit dans la première épître de Jean au chapitre 1, verset 9. J'aimerais me citer moi-même en exemple parce que j'aime pas parler des péchés des autres. On sait que le 3e commandement de Dieu dit « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. » Avant d'avoir reçu Jésus comme mon Sauveur et Seigneur, c'est-à-dire avant de devenir une enfant de Dieu, Il m'arrivait de temps en temps de prendre le nom du Seigneur Jésus en vain. Aussitôt que j'ai reçu le don gratuit de la vie éternelle, j'ai réalisé par moi-même que je ne devais plus jamais faire ça. Mais un jour, des circonstances ont fait que je me suis impatientée pour une raison quelconque et, oups, sans avoir le temps d'y penser, j'ai pris son beau nom en vain. Dès que je l'ai réalisé, je me suis mise à pleurer à gros sanglots. Je m'en rappellerai toujours. J'étais dans ma chambre, j'étais encore à Outremont dans ce temps-là. Je suis tombée à genoux, puis j'ai demandé à Dieu de me pardonner. Puis aussitôt, la paix est revenue dans mon cœur, suivie de la joie que le Saint-Esprit me faisait goûter, parce que j'avais la certitude que Dieu m'accueillait à bras ouverts encore une fois. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Mais je sais que si l'orgueil m'avait empêché de demander le pardon de Dieu, j'aurais attristé son esprit qui habite en moi, puis je serais encore demeuré dans la tristesse jusqu'à ce que je décide de me repentir. Et toi, mon ami, as-tu reçu le pardon de Dieu? Es-tu devenu un enfant de Dieu? Est-ce qu'il t'a pardonné ta vie de péché, comme il l'a fait pour moi il y a plusieurs années? Viens, Jésus. Repens-toi. Demande-lui d'entrer dans ton cœur. Il frappe à la porte. Si tu entends sa voix, ouvre la porte. Laisse-le entrer. Il va te pardonner. Il va faire de toi un enfant de Dieu. Tu vas être avec lui. Sur cette terre, tu vas même réaliser que tu habites déjà dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et tu vas avoir la certitude de la vie éternelle. La journée où tu vas fermer tes yeux pour la dernière fois, tu vas entrer dans sa compagnie pour l'éternité.
Chers amis, je profite de cette occasion qui m'est accordée pour vous inviter cordialement à assister à un camp de l'espoir. Entre autres, deux régions sont visées. Premièrement, celle de la Chute, du 23 au 26 avril, où des gens de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir vous visiteront. En faisant des sondages, ils pourront répondre à vos questions d'ordre spirituel et biblique. Ils vous inviteront également à assister, cela tout à fait gratuitement, à une soirée gospel le 25 avril au soir, où une chorale de plus de 50 personnes interprétera des chants d'encouragement. Et le lendemain, soit le 26 avril, toujours pour les gens de la région de la Chute, vous êtes invités à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir, et cela tout à fait gratuitement, où vous pourrez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu, le témoignage de la chanteuse Caro. Une seconde invitation, mais cette fois pour la population habitant la région de Pointe-aux-Trembles. Le camp de l'espoir qui se déroulera dans votre région aura lieu du 27 au 31 mai prochain. Vous pourrez assister vous aussi, et cela tout à fait gratuitement, à une soirée gospel et à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Les dates à retenir pour les gens de Pointe-aux-Trembles et de la région, vendredi soir le 30 mai pour la soirée gospel et le samedi 31 mai au matin pour le merveilleux déjeuner de l'espoir en compagnie de la chanteuse Caro. Pour connaître les heures et les lieux de ces événements, vous pourrez consulter votre journal local dans cette même semaine ou via Internet à www.espoir.ca, www.espoir.ca. Également, pour ceux et celles qui veulent le faire par téléphone, vous pouvez composer le numéro suivant, 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647. Au plaisir de s'y retrouver.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.